Vous regardez mon cou, commissaire ?
Pas précisément.
Je m'appelle Borniche. Roger Borniche. Inspecteur à la Sûreté nationale. Au nom de la loi, je vous arrête.
Comment m'avez-vous trouvé ?
C'est mon métier.
Monsieur, nous nous connaissons à peine. Je ne sais pas si je dois accepter.
Ne te fatigue pas, Totoche. On est du même monde. Qui est à l'appareil ?
Robert Klein.
Je vous cherchais, moi aussi.
À la fraternité, à la liberté, à l'égalité, à la justice, au droit et vive la nation.
Costello, chef, 30 ans, sans condamnation, inconnu au sommier, correspondrait au signalement donné.
Bonjour à tous. Alain Delon, une icône française. Tel est le titre du quatrième chapitre aujourd'hui de notre série consacrée à la filmographie de celui que l'on surnomme depuis 1967 le samouraï du cinéma français. Un surnom qui va comme un gant à Alain Delon tant sa nature et ses traits de caractère rejoignent ceux des guerriers du Japon féodal. Froid et impassible pour les uns, intimidant et tranchant pour les autres. On ne saurait cependant résumer l'acteur à ces quelques épithètes, tant Alain Delon est aussi tellement d'autres choses, davantage laudatives, qui relèvent de l'émotion, de la séduction ou encore du charisme. Ce qui est sûr, c'est qu'en 50 ans de carrière, son étoile n'a jamais pâli et sa légende n'a fait que se renforcer au fil des rediffusions de ses films à la télé. Et dans cette filmographie variée et pléthorique, quelques-uns sont passés à la postérité, à commencer, à tout seigneur, tout honneur, par le samouraï de Melville.
Pourquoi, Jeff ?
On m'a payé pour ça.
La musique faussement légère de Lorgamon dans la scène finale du Samouraï, où Alain Delon fait face à Cathy Rosier, un revolver à la main. Pianiste du club de jazz où il a exécuté le patron, elle est aussi la seule à l'avoir vu. Les policiers, plus promptes, abattent Jeff Costello, personnage devenu iconique au fil des décennies. Nombreux sont en effet les cinéastes à avoir cité ou à s'être inspiré du personnage de tueur à gages du film de Jean-Pierre Melville. Melville Delon, voici un tandem uni par des liens très forts après ce premier film ensemble. Ils n'en tourneront que trois, le samouraï, le cercle rouge et un flic, mais tous seront des chefs-d'œuvre. Les deux hommes qui ont le sens de la fatalité développeront des rapports d'amitié très intenses. Sur le plateau, Delon et Melville se trouvent avec une facilité déconcertante. Et après René Clément et Luchino Visconti, Melville sera son nouveau mentor. Aussi, la mort en 1973 de celui qu'il considérait comme son père spirituel va profondément changer Alain Delon et renforcer sa mélancolie. Et Monsieur Klein, en 1976 chez Lauzet, en est une parfaite illustration. La musique atmosphérique, très atonale et pesante, signée Egisto Maki pour Monsieur Klein, récompensé en 1977 par 3 Césars, meilleur film, meilleur réalisateur pour Joseph Losey et meilleur décor pour Alexandre Trauner. L'un des plus beaux rôles sans doute d'Alain Delon dans la peau d'un marchand d'art vivant dans un luxueux hôtel particulier parisien. Nous sommes en 1942 sous l'occupation et l'antisémitisme bat son plein. Aussi, en cherchant à prouver qu'il n'est pas juif, Robert Klein va s'engluer peu à peu dans un piège kafkaïen qui va se refermer sur lui. En évoquant le sort réservé aux juifs sous l'occupation, Losey intègre des éléments historiques à une œuvre considérée comme quasi métaphysique. Delon éblouit, encore une fois, quant à sa capacité à exprimer les sentiments dans la grisaille et la nuit de l'hiver. On est loin en tout cas de Mélodie en sous-sol et du soleil de la Côte d'Azur que choisit en 1963 Henri Verneuil pour camper l'intrigue de son histoire. Le Palm Beach de Cannes, objet de toutes les convoitises d'un tandem de truands pour le moins hétéroclite, composé de Jean Gabin, tenté par un dernier coup retentissant, et d'Alain Delon, flambeur ambitieux et impétueux. Henri Verneuil réunit les deux acteurs en 1963 pour Mélodie en sous-sol, qui avec 3,5 millions de spectateurs sera un gros succès en salle. Alain Delon réalise son rêve de jouer avec son idole de jeunesse, tandis que Michel Magne se la joue très big band en composant et dirigeant une partition jazz à la couleur très 50s. Restons sur la Riviera et retrouvons à présent l'eau bleue, non pas de la Méditerranée, mais d'une piscine de la presqu'île de Saint-Tropez.
Thank you.
La fugue, du nom de l'extrait tiré de la BO de la piscine, que l'on doit à Michel Legrand au sommet de son génie créatif, en cette fin des années 60, qui pour les besoins du film de Jacques Deray, compose ici une partition minimaliste pour chœur, voix et orchestre, avec pour fil rouge un thème musical imprimant une sensualité, laissant ressentir toute la torpeur estivale. Une partition avec quelques intermèdes récréatifs, à l'image de cette fugue mi-classique, mi-chorale. L'engouement autour du film permet à Jacques Deray, en tout cas, de connaître son premier grand succès commercial. Quant à Alain Delon et Romy Schneider, bien que séparés dans la vie, leur retrouvaille devant la caméra va marquer durablement les esprits et continue d'ailleurs à entretenir leur mythe en partie, à cause ou grâce à la beauté de leur corps bronzé parfait filmé dans la lumière blanche de l'été. Il y a clairement deux ambiances, un tempo enlevé, voire échevelé, et un autre plus apaisé qui s'apparente presque à une berceuse. Dans cet extrait que nous venons d'entendre d'Adieu l'ami, composé par François de Roubaix. Nous sommes en 1968 quand sort ce film que l'on doit à Jean Herman, un nom d'emprunt choisi par celui qui allait devenir un grand écrivain sous son vrai patronyme, Jean Vautrin. Prix Goncourt notamment en 1989 avec Un grand pas vers le bon Dieu. Adieu l'ami est son deuxième long métrage et met en scène Charles Bronson et Alain Delon, tous deux anciens légionnaires embringués dans un casse qui va mal tourner. Cambrioleur, Delon le sera une nouvelle fois un an plus tard chez Henri Verneuil, qu'il retrouve ainsi que Jean Gabin. 6 ans après Mélodie en sous-sol. Le duo devient trio de choc avec Lino Ventura, à jamais dans les mémoires, ainsi que le thème musical d'anthologie d'Ennio Morricone, qu'on ne présente plus. Pour le clan des Siciliens, Ennio Morricone avouera avoir utilisé les tonalités graves d'un orchestre à cordes, les mêlant à des sonorités décalées, telles qu'un sifflet ou une guimbarde déjà présente dans ses musiques chez Sergio Leone. Elles accompagnent ici de manière récurrente le personnage joué par Jean Gabin, alias Vittorio Manalese, patriarche régnant d'une main de fer sur une famille mafieuse sicilienne, lui obéissant au doigt et à l'œil. Le film totalisera près de 5 millions d'entrées, rien qu'en France, et fera rentrer à jamais dans la légende du cinéma français le trio Gabin, Delon, Ventura, ainsi que la musique de Morricone, parmi l'une de ses plus connues. Trois ans après Le Samouraï, Alain Delon retrouve Jean-Pierre Melville en 1970 pour Le Cercle Rouge, autre rencontre au sommet, cette fois-ci avec Bourvil et l'acteur italien Gian Maria Volonté. Alain Delon sort encore de prison et projette le casse d'une bijouterie située place Vendôme. Toujours soucieux du moindre détail dans ses films, en particulier de la musique, Jean-Pierre Melville se montre très dirigiste quant au choix des morceaux. Pressenti dans le projet initial, Michel Legrand sera finalement remplacé par Éric Demarsan, qui se pliera de bonne grâce aux exigences du réalisateur qui souhaite imprimer une couleur très spécifique à son film. En l'occurrence, un jazz très noir et très polar. Assistant de François Droubet sur Le Samouraï, Éric Demarsan n'aura que 3 semaines pour composer et diriger finalement un quintet de jazz. Et le moins que l'on puisse dire est que le résultat va s'avérer probant. Après Éric Demarsan, retrouvons Philippe Sard pour un autre thème resté lui aussi dans les mémoires. Et ce thème, c'est celui de la veuve Coudert. Thank you. Après le tournage de La Veuve Coudert, Alain Delon gardera une tendresse particulière pour Simone Signoret. L'acteur confiera à plusieurs reprises avoir été touché par sa mélancolie et sa fragilité. Pierre Granier de Fer adapte en 1971 le roman éponyme de Georges Simenon et lui donne vie grâce à la composition éblouissante que donne à l'écran à leurs personnages Delon et Signoret. Lui dans la peau d'un criminel évadé du bagne, elle dans celui d'une maîtresse femme en proie à des dissensions avec une belle famille qui ne l'a jamais acceptée. Cette émission arrive bientôt à son terme. Un grand merci à Emmanuel Bouissière qui assurait aujourd'hui la réalisation technique de cette émission, réécoutable ou podcastable sur rcf.fr. Dans le cinquième et dernier épisode, je vous parlerai la prochaine fois du producteur et de l'homme d'affaires. Et on se quitte en musique avec le générique de Flick Story que tourne en 1974 Alain Delon qui retrouve Jacques Deray après Borsalino et sa suite. L'acteur prête ses traits à l'inspecteur Roger Borniche, célèbre pour avoir traqué le dangereux criminel Émile Buisson dans le Paris de l'après-guerre. La musique très incarnée, restée célèbre une fois encore, est quant à elle signée de Claude Bolling. Excellente continuation à l'écoute de nos programmes.